Bonjour, on va peut-être commencer par se présenter. Donc je m'appelle Eric de Saint-Denis, je suis enseignant. Enseignant à la base, comme je dis, c'est à la fois je travaille avec des élèves tous les jours et j'enseigne histoire-géographie. Et en même temps, je dis enseignant à la base parce que depuis 10 ans, mon métier a un petit peu évolué, puisque je suis aujourd'hui enseignant dans une structure expérimentale qui existe depuis maintenant 10 ans, qui s'appelle le micro-lycée. Si vous tapez sur Internet micro-lycée, il en existe trois dans l'Académie de Créteil. J'ai participé à la fondation du premier en 2000, à la fondation du second en 2008. Il faut que je m'éloigne. Voilà, donc je travaille dans le second et accompagné la naissance du troisième. Et à chaque fois, dans chacun de ces micro-lycées, on travaille, je vais vous présenter évidemment de quoi il s'agit, avec des équipes universitaires. Voilà. Donc dans un premier temps d'une demi-heure environ, je vais faire une présentation avec un axe que nous avions défini ensemble avec l'IFE, qui était de s'interroger sur les questions de la tension entre la marge et la norme dans des structures qui sont des structures un peu particulières et qui sont très proches de ce qu'on vous a présenté déjà ce matin, qui est le lycée de la Nouvelle Chance à Magenta par Monsieur Terrasse, avec des ressemblances et des différences, mais ce n'est pas l'objet de mon exposé. Mais vous allez avoir en résonance, évidemment, un certain nombre de choses que vous avez déjà entendues ce matin. Puisque dans les micro-lycées, comme dans les lycées de la Nouvelle Chance, hein, il s'agit de permettre à des élèves qui sont en rupture de scolarité totale, hein, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans parfois, de revenir à l'école. On s'adresse donc à un public, hein, qui est un public très particulier, de décrocheurs, de décrochés, je dirais d'écorchés, de l'école, hein, des laissés pour compte, qui appartiennent à la marge scolaire depuis souvent très longtemps. Et il ne s'agit pas évidemment ici de s'interroger sur les facteurs de ce décrochage scolaire, mais les micro-lycées aussi s'adressent à des élèves qui finalement ne sont plus des décrocheurs tout à fait, puisque ce sont des raccrocheurs. Ils reviennent à l'école, ce pourquoi il y a forcément un décalage, hein, entre ce que je peux dire sur les micro-lycées et sur ce public qui est en cours d'abandon d'études, puisque nous, finalement, nous accueillons des élèves qui potentiellement au moins souhaitent revenir à l'école. Et c'est aussi l'écart entre leur souhait de revenir à l'école et la réalité du passage à l'acte et de la possibilité de le faire au moins à taux plein, je dirais même à temps plein, hein, que se pose l'aller-retour entre la marge et la norme que l'on m'a demandé d'interroger cet après-midi. Il s'agit aussi de s'interroger sur le projet des micro-lycées qui marche sur deux jambes et ces deux jambes sont souvent un petit peu en tension. Puisque d'une part, il s'agit de rescolariser des jeunes. C'est vrai que quand ils n'ont pas été à l'école depuis 3 ans, revenir à l'école tous les matins à 8 heures, c'est pas simple. Et en même temps, de leur demander de préparer un baccalauréat. Si nous préparons, et là on est en complément total avec Magenta de ce matin, au baccalauréat ES, L et STG, cette année option mercatique. Hein, donc on est sur du LGT, lycée général et technologique, plus que sur du pro. Hein. Alors, ces jeunes sont des jeunes qui ont, et je vous les présenterai, des caractéristiques particulières, et l'une des questions qui se posent, évidemment, c'est de savoir s'ils sont des élèves ordinaires, ou non. Alors, la scolarité dans les micro-lycées tente de répondre à cette question. Est-ce qu'on doit présenter à des élèves qui sont des élèves particuliers, parce que nous pensons, nous, que ce sont des élèves particuliers, une école ordinaire, ou est-ce qu'on doit créer face à ces élèves-là, une autre école, et laquelle? Et en quoi elle doit ressembler à l'école ordinaire, dans la mesure où nos élèves, quand ils arrivent, et peut-être parce qu'ils appartiennent et depuis très longtemps à la marge, sont demandeurs de la norme. Et ils nous disent, moi ce que je veux, c'est des vrais cours, c'est des vrais profs, c'est des vraies notes, et tout ce que vous allez me proposer par ailleurs, tout ce qui va être dispositif innovant, dispositif expérimental, que ce soit le nom qu'on va leur donner, ils vont avoir tendance à les fuir, ce qui évidemment est un paradoxe, hein, entre la norme et l'attention, tout à fait central dans ce que sont les micro-lycées. Il se trouve que une revue du CERCE de l'université de Caen, qui s'appelle Les sciences de l'éducation pour une ère nouvelle, vient de sortir un numéro, son premier numéro de 2012, qui s'intitule Normes et normativité dans l'éducation. Je vous renvoie à ce numéro-là que vous trouvez sur Internet avec un certain nombre de chercheurs universitaires. Mon point de vue est celui d'un praticien. Hein. Il ne s'agit pas là de revenir sur la question de la normativité, de la norme, etc. Je n'y ferai que très peu référence. Néanmoins, il me semble que les micro-lycées travaillent fondamentalement sur l'acceptation par ces élèves-là de la norme et de faire en sorte finalement que ces élèves qui sont à la marge acceptent la norme, ou exactement que la norme devienne acceptable pour eux, et en particulier la norme du baccalauréat, ce qui n'est pas simple. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'il faut à la fois faire en sorte que le normatif ne soit pas normalisant, faire en sorte que la norme s'inscrive dans un groupe qui lui donne de la valeur sociale, et enfin interroger en permanence le rapport à la norme et l'interroger donc avec l'adulte. Et je renvoie à l'atelier tout à l'heure sur l'entretien d'explicitation et sur les entretiens qui ont été faits avec les élèves décrocheurs pour aboutir aux causes du décrochage, car c'est des entretiens aussi avec l'élève qui, à l'écoute avec l'adulte, donnent du sens à la norme. Et c'est parce que on donne du sens à la norme que ces élèves-là finissent par l'accepter. Et chez nous, c'est un vrai problème, hein, cette acceptation à la norme scolaire. Alors je vais l'interroger en trois points. Le premier point, si finalement, c'est les élèves eux-mêmes. Hein, si on regarde les élèves qui viennent, et encore une fois, les élèves qui s'inscrivent au micro-lycée sont des élèves qui sont raccrocheurs, hein, et non pas décrocheurs. Si on fait une analyse statistique, j'ai pris des statistiques sur trois cohortes, hein, donc environ 200 élèves, on en scolarise chaque année 90 dans des groupes de seconde, première et terminale. Mais comme il en reste 37% environ de l'année dernière sur l'année suivante, évidemment, il faut éliminer pour ne pas avoir des doublons statistiques. Et donc, si on prend les 200 élèves des trois dernières cohortes, qu'est-ce que l'on peut interroger sur la question de la norme et de la marge? Je vous ai pris trois indicateurs pour un petit peu particulariser ce public. D'abord, la situation familiale. Situation familiale, 38% vivent avec leurs deux parents, ce qui veut dire que 37% ne vivent qu'avec un seul. Après tout, on retrouve là des choses assez normales, si on reprend ce terme-là. Sauf qu'il y en a même quand même 15% qui vivent seuls et 10% qui vivent dans d'autres situations, tu vois, des situations de couple ou des situations avec une famille lointaine, des grands-parents en particulier, hein, qui prennent le relais des parents. Ce qui fait quand même un quart d'élèves qui sont quand même, d'un point de vue de leur situation familiale, carrément à la marge de l'habitude scolaire. Hein, même en lycée pro. Deuxième indicateur possible, les fameux CSP. Si on prend les CSP, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on va retrouver de l'ordinaire, évidemment, et de la marge. 27% appartiennent à des catégories sociales supérieures, cadres en particulier, ce qui veut dire aussi qu'évidemment, l'information sur le réseau des structures Nouvelle Chance ou micro-lycée, quel que soit le nom qu'on leur donne, évidemment, touche beaucoup des catégories qui ont l'information, mais pas seulement. 25% sont issus de catégories ouvriers et employés, et 15% de professions intermédiaires, ce qui veut dire qu'il en reste 33% qui ne sont dans aucune de ces catégories. Et où sont-ils? Inactifs, retraités, chômeurs. Et je dis, je ne prends que les CSP du père, car là, je prenais les CSP du père. Je ne vous embarque pas sur les comparaisons de CSP entre le père et la mère. Évidemment, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. 20% sont des papas qui sont perdus de vue ou décédés, avec lequel l'enfant est incapable de dire où il est, ce qu'il fait, quelle est sa situation, s'il est encore vivant, et en particulier pour un certain nombre décédés. Ce qui fait quand même là aussi une marge assez importante de situations familiales, qui sont des situations familiales quand même très abîmées pour beaucoup. Enfin, troisième indicateur, le temps de décrochage. Combien de temps ont-ils arrêté l'école avant de revenir chez nous au micro-lycée? J'ai arrondi les pourcentages, mais ils sont à peu près justes. 40% moins d'un an, 40% de 1 à 2 ans, et 20% plus de 2 ans de décrochage. Ce qui là aussi, je ne sais pas sur Magenta quelles sont vos statistiques de ce point de vue-là, hein, fait un public qui est en rupture totale. Ce qui veut dire que quand on parle de décrocheurs, vous et moi, nous n'avons pas le même vocabulaire. Hein, vous parlez d'élèves qui sont dans vos classes, dans vos établissements, dont vous vous occupez et qui ne vont pas bien et qui sont dans un processus de décrochage. Moi, je parle en fait des élèves qui ont arrêté complètement l'école et auxquels, après tout, le nom de décrocheur ne convient peut-être plus. Ils sont en rupture totale avec l'école. Ils ont arrêté Ils sont rentrés chez eux. Rentrés chez eux parce que certains sont restés 6 mois allongés dans leur chambre sans se lever, en restant en pyjama. Certains m'ont dit même, moi, je me suis pas lavé les dents de toute l'année. Hein, dans des situations lourdes. Certains sont restés ailleurs, certains sont passés par l'étranger. Ça, voilà. Ils ont mené des vies qui sont totalement en rupture avec l'école. Ce qui veut dire que revenir à l'école, hein, c'est vraiment réinterroger une norme socio-scolaire qui est quand même assez compliquée à réintégrer. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, justement, je parlerai de la présence de ces élèves. Parce qu'on a avec ces élèves-là, et vous le savez mieux que moi, un absentéisme, évidemment, qui pour certains est perlé, mais qui pour d'autres est carrément extrêmement lourd. Des élèves qui ne vont plus du tout à l'école, qui restent dans les bases de vos établissements, peuvent arriver chez nous. Et le problème, évidemment, c'est que cet absentéisme, ils l'ont complètement intégré. Ils l'ont intériorisé. C'est devenu une posture. C'est un habitus avec lequel ils se sont finalement construits par rapport à l'école, par rapport à leurs parents, par rapport à la société, par rapport à leurs copains de la rue. Et cet habitus, il va falloir commencer à le déconstruire. Évidemment, et ça se déconstruit pas du jour au lendemain. Hein, c'est des jours et des jours de reconstruction du projet, de reconstruction de soi, d'estime de soi. Bon, je vais pas rentrer dans tout ça, vous connaissez ça parfaitement aussi bien que moi, qui permet ce retour à l'école. Néanmoins, on a des taux de présence qui fonctionnent des périodes de l'année, s'échelonnent entre 50% de présence et 85% de présence. D'accord ? Pas au-delà. On n'est jamais au-delà, parce qu'entre ceux qui retournent dans la dépression, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui... de toute façon, avec ce type de public-là, ou alors il faudra une sélection à ce moment drastique à l'entrée, on a un certain nombre d'élèves qui veulent retourner à l'école, mais qui tout simplement n'y arrivent pas. Pour des raisons même quelquefois médicales. Hein. Une élève en maladie de Crohn, une autre en symptôme Gilles de la Tourette, hein, bon, etc., etc., qui sont scolarisés chez nous et qui, évidemment, ont du mal avec la régularité scolaire. Ce qui veut dire que derrière, quand ils se réinscrivent à l'école et quand ils se reconfrontent à la norme, évidemment, ils trimballent leur valise. Tout ce qu'il y a dedans de problèmes personnels, de problèmes familiaux, de problèmes psychologiques, etc., c'est pas parce qu'ils se réinscrivent à l'école que tout d'un coup, tous les problèmes sont réglés. Il faut faire avec. Et donc, un vrai problème pour l'équipe pédagogique, et je ne reviens pas sur l'équipe, là, maintenant, je pourrais répondre à des questions s'il y en a, c'est de tenir compte de l'absence pour que ce ne soit pas un handicap dans la scolarité. Comment l'absence et la présence peuvent être considérées, je dirais pas au même titre, mais quasiment au même titre, pour qu'elles puissent permettre à l'élève de continuer à avancer. Donc, se pose la question de la gestion des absences, de la gestion des retards et de comment faire là aussi pour articuler la norme et la marge. Parce qu'on dit toujours oui, mais les élèves, ils ont besoin d'être à l'heure parce qu'après, dans le monde du travail, oui, taratata. On sait très bien que des élèves très absentéistes à l'école peuvent être très très à l'heure dans le monde de l'entreprise et qu'il n'y a pas de lien direct entre leur comportement scolaire et leur comportement dans le monde du travail. Tout le monde le sait, ça. D'accord? Donc la question du respect des horaires à l'école, elle se joue ailleurs. Et elle se joue dans le rapport à la norme, hein, dans la normativité éducative. Et ça, c'est tout à fait intéressant de travailler avec ces élèves-là, la normativité éducative. Comment les pousser à être présents, à être à l'heure, et quels sont les différents moyens que l'on peut utiliser pour ça? Je ne rentre pas dans le détail, puisque c'est pas l'objet. D'un point de vue général, est-ce qu'il y a d'ailleurs, au-delà de ça, une pédagogie, qu'on pourrait appeler entre guillemets micro-lycéenne, propre à ce type de structure. Je dis ce type de structure parce qu'il y a le LNC, il y a le collège lycée élitaire pour tous à Grenoble, il y a d'autres structures que les micro-lycées et qui portent d'autres noms. Sachant que d'un point de vue général, incontestablement, les enseignants doivent apprendre à lâcher prise. Évidemment, c'est contradictoire avec un établissement ordinaire où, au contraire, on aurait tendance à dire qu'on a besoin que nos collègues ils en prennent davantage, ils se sentent davantage concernés. Nous, dans notre structure, on a, au contraire, demandé à nos collègues de petit à petit apprendre à lâcher. À lâcher, ça veut dire qu'un élève qui est absent n'est pas forcément en soi un problème. Et ça veut dire que lorsqu'il revient, le but n'est pas de lui faire rattraper ce qu'il a raté, mais de le reprendre de là où il en est pour continuer à le faire progresser le plus loin possible. Hein? C'est un peu de la stratégie de saut de puce, mais on s'aperçoit que cette stratégie de saut de puce fonctionne. C'est un principe fondamental, d'ailleurs, qu'on pourrait avoir dans tous les lycées, collèges et lycées de France, prendre l'élève là où il est, là où il en est, non là où il devrait être. Parce que qui aussi définit le devrait être ? D'accord ? Sont-ce les enseignants, sont-ce les parents, la société, les programmes ? Enfin, on peut élaborer évidemment là-dessus. Qui définit la norme ? Je crois fondamentalement que le travail des enseignants, c'est de prendre l'élève là où il est et de le faire progresser le plus loin possible, quel que soit le type de lacune qu'il puisse avoir auparavant, et que notre travail n'est pas de combler des lacunes, mais de faire avancer les élèves, ce qui n'est pas tout à fait le même positionnement. Par ailleurs, et pour parler d'un autre sujet qui fâche, qui est celui de l'évaluation, prendre l'évaluation comme un objet de progrès et non pas comme un objet de sélection, le but étant là aussi de faire en sorte que l'élève puisse refaire les évaluations, les multiplier, gommer les accidents, etc., etc. Hein, bon, ce sont des choses qui sont pas neuves. Et là aussi, on n'invente rien du tout. Hein, ce sont des choses que vous connaissez. Me semblent des démarches qui sont pas propres à des structures expérimentales et qui pourraient être aussi diffusées, évidemment, très, très largement. Au-delà de ces bases pédagogiques, je voudrais terminer par insister sur le fait que l'approche structurelle de l'ensemble de l'établissement me semble indispensable comme un élément de construction de la norme scolaire et pas seulement la question de l'innovation dans la classe ou au niveau d'une équipe éducative, fût-elle très impliquée. Il me semble que si l'ensemble de l'établissement ne se met pas en marche lui-même dans une démarche collective qui regarde l'ensemble de la structure, il y a beaucoup de déperdition d'énergie et à un moment les acteurs s'épuisent. Tout seul dans ma classe, ou même à deux, ou même à trois, il y a un moment où on tire la langue et où les choses deviennent compliquées. Et installer du définitif, c'est installer de la structure, hein, c'est installer de l'institutionnel, et c'est donc de faire en sorte que l'ensemble de l'établissement se mette en marche. La réforme des lycées, d'ailleurs, y a en partie poussé, hein, avec la mise en place de l'accompagnement personnalisé. Ce sont des choses qui sont évidemment développées également dans le cadre de la réforme des lycées. Au micro-lycée, chaque enseignant est responsable de 8 élèves. On peut l'appeler tuteur, on peut l'appeler référent. Nous, on l'appelle référent, mais peu importe, d'accord ? Ça veut dire que je suis, moi, la scolarité, et pas que la scolarité, les problèmes familiaux, la situation sociale, professionnelle, etc., de 8 élèves. Ça veut pas dire que je connais pas les autres, mais ceux-là, je les connais un peu. Ces élèves-là savent qu'ils peuvent compter sur moi, ont mon numéro de portable si besoin, m'envoient des SMS régulièrement, je suis en contact avec des parents quand il y a des parents, et tous les jours, je me préoccupe de savoir où sont ces élèves-là. Parce que tous les jours, eux se posent la question de savoir est-ce que je vais à l'école. Parce que ce n'est pas des questions qui sont inscrites dans leur cursus. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu se réinscrire que tous les jours, ils ne se reposent pas la question de venir à l'école. C'est-à-dire que la question de l'écoute, de la parole, et je reviens sur l'entretien tout à l'heure qui a été montré en atelier, est à nouveau très importante parce qu'elle permet évidemment de reconsidérer l'élève comme sujet. Et finalement, c'est la situation de sujet qui permet à l'élève d'accepter la normativité. S'il n'est pas dans cette situation de sujet, et en particulier nos élèves qui sont très fragiles sur ce plan-là, refuseront la question de la normativité. En complément de cette référence, parce qu'on a quand même un public assez particulier, on est aidé par un psychologue clinicien qui reçoit nos élèves à l'intérieur de la structure, dans une posture clinicienne, mais à l'intérieur de la structure, une fois par semaine. Ce qui est un certain nombre de situations qui nous dépassent évidemment très largement. La deuxième approche structurelle que je ferai, c'est l'existence de groupes d'appartenance avec l'insistance sur le fait que les groupes classes servent ou devraient servir à ancrer au maximum possible l'élève dans une appartenance qui lui permet de retrouver aussi des rapports sociaux, une norme socio-scolaire qui lui permette de progresser. Les élèves qui n'arrivent pas au micro-lycée à se réinscrire dans un groupe sont des élèves qui redécrochent. Et si on prend les taux de réussite au baccalauréat, les élèves qui réussissent le baccalauréat sont ceux qui ont réussi à se remettre en marche dans un groupe socio-scolaire. C'est celui de la classe en particulier. C'est pas toujours celui de la classe, mais c'est important. Un exemple, nous faisons les conseils de classe par petits groupes d'élèves sur la base du volontariat. Donc on reçoit 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves en même temps. Et les conseils de classe se font avec des groupes d'élèves qui se sont choisis entre eux pour s'écouter et pouvoir intervenir dans le cadre d'un conseil de classe sur la situation de l'un ou de l'autre. C'est donc là aussi qu'on est dans un conseil de classe où l'écoute et la bienveillance l'emportent sur la sanction et l'orientation. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir sanction et orientation, mais ce n'est pas l'objet du conseil de classe. Enfin, je terminerai pour dire que l'ensemble de la structure peut être aussi interrogé en termes d'ordre scolaire. Et l'ordre scolaire est souvent incarné par le règlement intérieur de l'établissement, et c'est quelque chose qui n'est pas secondaire. Et au micro-lycée, on a choisi à la fois de respecter évidemment le règlement intérieur de l'établissement dans lequel on s'insère, puisque tous les micro-lycées sont des structures attachées à un EPLE, donc avec un proviseur responsable, avec un intendant qui gère les budgets, avec un CA, avec tout l'ensemble. Voilà, hein, ça fait partie de l'EPLE qui nous a accueillis. Donc il est normal de respecter évidemment le règlement intérieur, mais également de créer un propre règlement à l'intérieur du micro-lycée, qui sont des règles de fonctionnement du micro-lycée et qui touchent à la fois au comportemental, au pédagogique, aux évaluations, etc., etc. Ce qui veut dire que toujours la construction et l'aller-retour entre la norme et la marge se jouent au niveau individuel, au niveau du petit groupe et au niveau du grand groupe. Hein, et c'est à l'ensemble des échelles que s'interrogent ces allers-retours entre la marge et la norme. Pour conclure, parce que je voudrais laisser la place à des questions, si questions il y a, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est dire que si l'on réussit pour la majorité des élèves à les faire passer de la marge à la norme, parce que c'est finalement notre travail au quotidien, c'est parce que, un, les micro-lycées sont fondamentalement des écoles qui s'appuient sur le principe de l'inclusion. C'est un principe qui est en particulier développé dans des écoles au Brésil, hein, les écoles inclusives, avec un certain nombre de principes qui ne sont pas révolutionnaires, qu'on retrouve en particulier dans les courants de ce qu'on appelle l'école nouvelle en France, hein, et qui permet de voir que, de penser et de faire fonctionner une école dont le but n'est pas la sélection année après année, filière après filière, mais dont le but est toujours de garder un maximum d'élèves. Hein, j'avais une de mes référées qui m'appelait hier, qui voulait démissionner. On était à un mois du bac, c'est une élève de terminale STG. Et je lui dis, Moussoumara, le problème n'est pas de démissionner, le problème c'est d'aller au bac. Tu as le bac dans un mois, si tu ne viens plus en cours, puisqu'elle avait des problèmes économiques qui l'obligeaient à se reconfronter au monde du travail, je lui dis, va travailler. Mais n'oublie pas que tu as une semaine de baccalauréat et que cette semaine de baccalauréat, tu dois l'affronter, d'accord, et ne pas fuir. Et tu m'appelles et je t'enverrai des SMS et on reste en contact. Elle m'a dit, bon d'accord, je ne démissionne pas, merci, on va voir, je vais essayer de passer le bac, etc. Mais ça veut dire que j'ai joué à plein mon rôle de référent dans une école inclusive. J'aurais très bien pu lui dire, bah oui, tu choisis de démissionner, c'est ton choix, t'es grande, tu dois travailler, tant pis, mais c'est ainsi, va travailler et c'est terminé. Donc ce travail-là, qui est souvent soit le travail du CPE, soit le travail du professeur principal, enfin selon l'organisation de chaque établissement, c'est un travail qui doit aussi revenir dans la main du tuteur, du référent. Et après tout, si on compte dans un établissement un élève, 10 élèves pour un prof en moyenne, hein, sur la France, selon si on est en collège ou en lycée, tout ça, on doit pouvoir avoir un système qui devrait pouvoir s'organiser de ce type-là. Hein, et d'autres pays, évidemment, l'ont fait. Le deuxième principe sur lequel s'appuient les micro-lycées, c'est le principe de l'accompagnement. J'irais jusqu'au compagnonnage. Hein. Quelquefois, je dis, on travaille avec les élèves main dans la main. On travaille l'un à côté de l'autre. Je ne travaille pas face à un élève, je travaille à côté d'un élève. Voilà. Il s'agit d'être sur le même palier, chacun à sa place, mais ce n'est pas une question de hiérarchie, la place. C'est une question de positionnement. Hein, et ce n'est pas pareil. Et selon les discours aussi qu'on nous sert sur l'éducation, c'est important de s'interroger sur la place de l'enseignant et la place de l'élève. Et c'est dans l'accompagnement qu'on limite le décrochage, et c'est dans l'accompagnement qu'on favorise le raccrochage. S'il n'y a pas ce compagnonnage, et le compagnonnage, il va jusqu'au coup de fil quotidien. On appelle tous les matins nos élèves absents. Et quand on cesse de le faire, alors qu'ils sont toujours absents, parce que ce n'est pas parce qu'on les appelle qu'ils reviennent, ils nous le reprochent. D'accord ? Donc là aussi, hein, l'aller-retour entre la norme et la marge est tout à fait intéressant. Je voudrais terminer simplement puisqu'après tout, comment mesurer des résultats sur la marge et la norme, et qu'est-ce qu'il emporte au bout du compte? Donner des chiffres, et j'aime bien les évaluations quantitatives aussi, quand elles ont du sens. Et de toute façon, Philippot parlera qualitatif tout à l'heure. Que deviennent-ils après la sortie du micro-lycée? Alors, j'ai deux indicateurs possibles, soit celui à 6 mois, soit celui à 3 ou 5 ans. D'accord? Je vous prends celui à 6 mois. Pour que vous ayez le temps de répondre, de poser des questions. À 6 mois, que deviennent nos élèves? Ceux qui sont tous sortis, parce que je l'ai dit tout à l'heure, 37% restent au micro-lycée l'année suivante. Hein? Donc, on ne prend que ceux qui sont sortis du micro-lycée et pas ceux qui y sont restés. 6 mois après, 35% poursuivent des études supérieures. On suppose que ceux-là ont eu le bac, évidemment. Quelquefois, ils ont eu le DAU, d'ailleurs. Hein, ils n'ont pas toujours eu le bac. Puis quelquefois, ils ne l'ont pas eu avec nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont quittés l'année précédente. Tel élève nous a quittés en première et il a été faire une année tout seul dans son coin. Et puis, il a passé le DAU et on apprend qu'il est en études supérieures. Donc, 35 sont en études supérieures, à peu près moitié études courtes, moitié études longues, hein, environ, ça dépend des années, c'est variable, avec un pourcentage de changement d'orientation, donc de redécrochage du supérieur que vous savez très élevé, qui est comparable, alors selon les années, il est égal ou inférieur, moi je préfère dire comparable au pourcentage que l'on trouve à l'échelle nationale, hein, c'est-à-dire d'environ entre 30 et 50% d'élèves, mais avec derrière un projet pour la seconde année, ce qui est le cas aussi de la majorité des étudiants français. Hein. 35% travaillent. Alors là aussi, le travail, c'est dans la majorité des cas des emplois précaires. Hein, sur ces 35%, 25% c'est de l'emploi précaire. Mais après tout, à 20, 25 ans, dans la majorité des cas, la norme, on peut le regretter, mais la norme est celle de l'emploi précaire. Pour un certain nombre, ils sont déjà en CDI. Donc il y a là aussi une vraie intégration sociale. 18% sont toujours en formation, j'ai dit bien hors micro-lycée. Ça veut dire qu'ils ont trouvé d'autres types de formations hein, que celles d'ordre scolaire qu'on a pu leur présenter. Et 12% sont sans solution et sans le bac. Très clairement, pour ces 12%-là, à 6 mois, on semble-t-il pas servi à faire en sorte de pouvoir les sortir de la marge pour les remettre dans la norme. Quoique, je pense à un jeune Asiatique qui m'a envoyé un SMS 3 ans après, que je pensais complètement perdu de vue, qui était dans les 12% en question, et qui 3 ans après me disait « Mais vous pouvez pas vous rendre compte combien ces quelques mois passés au micro-lycée ont été pour moi fondamentales, parce qu'il y a eu écoute, il le disait pas évidemment, parce qu'il y a eu inclusion, il le disait pas, parce qu'il y a accompagnement, il le disait pas. » Et il finissait son mail en disant « Mais je suis pas d'accord avec lui, surtout ne changez rien. » Voilà, je m'arrête là.